Alors, je vais dire, reprendre le texte. Je vais dire exactement. Quand? Voilà. Alors, ce que je vais vous donner maintenant, c'est les références concernant les deux genres de bénédictions qu'Isaac avait à transmettre. Alors là, ça vous permettra d'abord d'élucider quelque chose qui, en général, n'est pas clair. On pense qu'il ne s'agit qu'une seule bénédiction, et qu'elle était destinée à Ésaü, et que c'est Jacob qui l'a reçue, ça nous y reviendrons. Mais pour ça, il faut quand même que nous reprenions un thème auquel j'ai fait allusion à la nuit d'études à Shavuot. Tout le monde était à la nuit d'études à Shavuot? Bon, alors vous vous rappelez qu'on a caractérisé une différence entre la période des Avot et la période des Banim. Dans la période des Avot, il y a interdiction absolue de mariage avec les filles de Canaan, les femmes de Canaan. Le thème est important, on l'a déjà rencontré pendant l'année, je suppose. C'est ceci. Israël est une nation qui est destinée à remplacer Canaan. Dès le début de la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim, vous verrez les textes, dès le début, dans l'Ech Lecha, on s'aperçoit qu'à partir d'Abraham va se préparer une nation pour remplacer la civilisation de Canaan qui avait échoué. Et il y a quatre générations de sursis qui est donné à la génération de Canaan, à la civilisation de Canaan à partir d'Abraham. Le verset, c'est Kilo Shilem Avon Haemori. Je vais essayer hypothétiquement de refaire l'histoire à l'envers, ce qu'on ne fait jamais, simplement par hypothèse. Si la civilisation de Canaan, qui était sur la terre de Canaan, qui est le berceau de la civilisation humaine, c'est un autre thème, s'était régénérée, avait fait tchouva, disons, alors peut-être que la descendance d'Abraham se serait résorbée dans Canaan et que Canaan aurait été Israël. Mais c'est vraiment une hypothèse farfelue. Comprenez, on ne fait pas l'histoire à l'envers. Et au moment de la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim, quatre générations de sursis sont données aux Cananéens. Et puis, c'est au moment où ce sursis arrive à expiration qu'Israël sort d'Égypte et remplace Canaan. Vous comprenez? Alors, si Canaan s'était retrouvé, c'est vraiment très en filigrane dans le récit biblique, et alors, qu'est-ce qui serait arrivé, la descendance d'Abraham? Eh bien, elle se serait intégrée à cet Israël régénéré qui aurait été Canaan. Mais vous rappelez une minute. Ça vous accrochera à ce que je vous ai expliqué le soir de la nuit d'études entre Yehuda et Tamar. Hein, que la suite des Toladot, du Mashiach, va se faire par le fait que Yehuda va prendre femme dans la souche la plus ancienne qui a mené à Israël, Tamar. Elle est à Canaan, elle n'est pas une cananéenne, elle est la fille de Shem, mais elle est ce peuple qui vit dans Canaan. Vous vous rappelez, il avait essayé avec la cananéenne, c'était une impasse, Er, Onan, Shla. Vous vous rappelez? Je signe. Vous vous rappelez qu'il y avait une impasse de stérilité. Les enfants qui naissent sont incapables d'enfanter. Alors, c'est Yehuda qui reprend Tamar et les engendrements reprennent. Le thème ici est important, c'est le thème du ressourcement. Le ressourcement ne peut réussir que s'il se fait dans l'antérieur le plus indifférencié. Sinon, il y a archaïsme. Vous vous rappelez de ça? Bon. Et alors, à l'époque des Avot, il ne peut pas y avoir de mariage avec une femme de Canaan, parce que l'identité d'Israël n'est pas encore engendrée. Tandis qu'à partir du moment où l'identité d'Israël est engendrée, alors il peut y avoir relation avec Canaan. C'est le cas de Yehuda. C'est clair? Alors ici, nous allons voir un thème important, c'est que Esav va être disqualifié pour deux raisons. D'abord, parce qu'il va rejeter la Bechora, l'aînesse, donc nous allons voir le thème, et ensuite parce qu'il va épouser des femmes de Canaan. C'est-à-dire la suite de la descendance d'Abraham par Yitzhak ne peut pas passer par Esav. Pardon? il était. Oui, oui, et c'est bon. Oui, ça veut dire, si Esav était devenu tzaddik, Léa était destinée à Esav et Rachel à Yaakov, nous aurions eu une histoire d'une toute autre portée. Mais voilà, je ne sais pas si nous en avons parlé, le texte dit que Léa avait les yeux faibles, vous vous rappelez de ça, et qu'elle pleurait parce qu'elle savait qu'elle était destinée à Esav et que c'était un rachat. Alors finalement, Jacob doit assumer les deux tâches, les siennes, celles de Jacob et celles de Esav. C'est ce que nous avons vu dans les analyses précédentes. Et corollairement, il épousera et Rachel et Léa. On verra qu'il gardera un faible pour Rachel. On va faire. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Quoi ?
À propos des quatre générations de Canaan qui ont un sursis, oui. Où est-ce qu'il y a une allusion ?
Je vais vous donner le verset. Et d'or, réveillé, Yashuvo, Enna, Kilo, Shilem, Avona et Mori. Je vais vous donner le verset tout de suite, c'est dans l'histoire d'avant. Chaque fois que je dis du Lachon Hara, j'éternue, moi. De qui j'ai mal parlé. Alors, c'est ça, c'est dans le Bril Benametarim, donc. Voilà, ça c'est ouvert comme ça. C'est le verset 16 du chapitre 16. C'est enfin, du chapitre 15. Verset 16 du chapitre 15. Védor revi Yashuvo Ena, Kilo, Shalem, Avona et Mori, Adena. Je voudrais à propos de ce verset qu'au moment même où Dieu annonce à Abraham que sa descendance va être, disons, en gestation en Égypte, le retour ne se fera qu'à la quatrième génération parce que la faute de l'Amoréen n'est pas encore comble. Et ça veut dire donc, inversement, si Amori, c'est l'habitant de Canaan, s'il y avait tchouva de la civilisation cananéenne, Israël se serait résorbé dans l'histoire d'un Israël qui serait Canaan Israël. Vous suivez ? À quel point nous vivons toute cette tension-là ? Est-ce que c'est clair ? Donc, on revoit que Ésaü va tranquillement épouser des femmes de Canaan. Et alors là, vous référez à ce qui était arrivé avant le déluge, quand les fils de la lignée de Chet ont pris les filles de la lignée de Caïn, vous vous rappelez ? Là, il n'y a plus ni Canaan ni Israël, c'est le mélange, c'est cette espèce de mélange que représente la suite de l'histoire de Edom. Et alors c'est à ce moment-là que Esav sera disqualifié. Peut-être nous allons commencer par cela. Nous allons voir que dans tous les cas, la bénédiction dite bénédiction d'Abraham est destinée à Jacob dans tous les cas. Parce que précisément Jacob est celui qui va continuer les toladotes. Et que c'est la bénédiction des biens matériels qui était destiné à Ésaü et que Jacob va prendre quand même sur l'intervention de Rivka. Donc je crois que c'est un peu plus clair. Il n'y a pas seulement une bénédiction en jeu, mais deux. Et je ne voudrais pas terminer le cours aujourd'hui en vous montrant que Jacob, bien que, je crois que j'y ai fait allusion une fois, que Jacob, bien qu'ayant reçu par Isaac la bénédiction destinée à Ésaü, l'a refusée. Il ne l'a pas utilisée. Vous vous rappelez de cela ? Oui. Alors on commence par la bénédiction d'Abraham, je vous donne les références. Prenez le chapitre 28. Vous avez déjà lu un peu, parcouru ces chapitres ? Le chapitre 28. Voilà. Non, c'est pas Veïten Lecha. Il y a un deuxième Veïten Lecha, tu les as vus déjà ? Le Veïten Lecha tunisien, c'était celui des Ahus.
Ah non, on
ne
peut pas
dire
ça.
On le lui a repris, n'est-ce pas ? Chapitre 28, depuis le premier verset, nous recommandons. Vaïkra Yitzhak et Yaakov. Vaïkra Yitzhak et Yaakov. J'ai pourtant encore rien dit. Kefrat. Kafhet. 28. Chapitre 28. Vaïkra Yitzhak et Yaakov. C'est dans la paracha Toldot. C'est juste ma corrige. Voilà. Vaïkra Yitzhak El Yaakov. Et Yitzhak appela Jacob. Vaïbarechoto et le bénit. Vaïtsavehu et lui ordonna, le recommanda. Vaïomerlo en lui disant Lotikarisha mi benot kna. Tu ne prendras pas de femme des filles de Canaan. Ouais, ça commence par là. Oui. Kum, lève-toi, décide-toi. Lech padena aram. Padena aram. C'est le nom de la contrée, de la province, d'où est sortie finalement toute la famille de Laban, c'est-à-dire la famille d'Abraham. Okay. Et la ville s'appelle Haran. La ville s'appelle Haran et la province s'appelle Padan Aram. Padan Aram, ça veut dire en direction de Padan Aram. L'er Padan Aram, Beta Betuel Abi Mecha, à la maison de Betuel, le père de ta mère. Betuel étant le père de qui? Donc de Rivka. Et Vekar lecha misham, et prends pour toi de là-bas Isha, mi benot Laban, des filles de Laban, achi mecha, le frère de ta mère. C'est-à-dire, ici nous avons la ligne de motivation que donne Isaac pour le départ de Jacob à Padan Aram. Précédemment, vous avez un chapitre sur lequel on reviendra après, où Rebecca, ayant appris que Jacob haïssait, que Esaü haïssait Jacob, d'ailleurs c'était réciproque, que Esaü haïssait Jacob, lui a demandé d'aller justement chez Betuel et pour se mettre à l'abri. Et vous avez là deux motivations parallèles. Quand Rebecca demande à Jacob de partir chez Laban, c'est pour se sauver d'Esaü. Quand Isaac demande à Jacob de partir chez Laban, c'est pour ne pas épouser des filles de Canaan. Et alors, dans la motivation d'Isaac, l'endroit s'appelle toujours Padan Aram. Dans la motivation de Rebecca, l'endroit s'appelle toujours Haran. C'est clair ? Vous avez deux récits parallèles, mais qui se croisent quand même. Jacob va partir avec deux consignes. Celle de sa mère, chapitre précédent. Enfuis-toi d'Esaü, va chez mon frère Laban. Celle de son père, ne prends pas de femme dans le pays de Canaan, va chez ton oncle Laban. Vous voyez ? Mais quand Isaac parle, l'endroit s'appelle Padan Aram. Lorsque Rebecca parle, il s'appellera Haran. Nous verrons laquelle des deux motivations à prendre du dessus lorsque Jacob devra partir. D'après le texte, il part à Haran. Donc c'est la motivation de Rivka qui prend le dessus. Mais arrivé à Haran avec la motivation de Rivka, il va réaliser ce que lui demandait Yitzhak, c'est-à-dire prendre femme chez. Parce que ce miracle est arrivé, que Rachel était là. Et c'est Laban qui va s'arranger pour lui donner aussi. Et ça, on verra après. Donc. Bien. Ve'el Shaddai et Barechotra. Et le Dieu Tout-Puissant te bénira. Ve'yafrecha te fructifiera. Ve'yarbecha te multipliera. Ve'aita likhal ramim. Et tu deviendras une assemblée de peuples. Kehal ramim, c'est l'expression par laquelle est désigné le fait qu'Israël sera constitué de 12 tribus, chacune des tribus étant un ram pour lui-même. Kehal ramim, une assemblée de peuples. Effectivement, nous savons que chaque tribu aurait pu être toute seule le peuple d'Israël. C'est un peu ce qui travaille au niveau des Edot, au niveau des communautés. Aujourd'hui, il n'y a plus les tribus, il y a quelque chose de parallèle, c'est les Edot. Je vous ai souvent parlé de cela. Chaque communauté, lorsqu'elle vivait isolée des autres dans le temps de l'exil, pouvait se constituer comme étant elle le peuple juif. Et puis il y avait aussi les autres, mais les autres, c'était les autres. Ce n'est qu'en Israël, de nouveau, que tous ces peuples juifs différents se rassemblent. Ça fait des problèmes, bien sûr, mais c'est le seul laboratoire au monde où de tels problèmes ne sont que des problèmes, si j'ose dire. Et je vous ai souvent parlé de cela. Imaginez que ce soit des juifs polonais et des juifs marocains qui se rassemblent, que ce soit des polonais et des marocains. Stam. Les municipalités n'existeraient plus. Oui, et c'est un problème grave, difficile, mais il a sa perspective messianique elle-même. Lorsque la municipalité israélienne réussit, alors c'est une réussite messianique. Ça veut dire que les hommes peuvent vivre ensemble. Et ce sont les juifs qui en font la preuve. Ils ne croyaient pas que c'est facile, c'est pas facile, c'est des vrais problèmes. Mais c'est la destinée de Jacob. Il va fonder une nation est un ensemble de peuples différents. Réouben, c'est pas Shimon. Shimon, c'est pas Issachar. Issachar, c'est pas Zebulon. Et puis, les Sfaradim, c'est pas les Ashkenazim. Mais Tami, c'est pas le Mabdal. Et toutes ces histoires-là, nous les vivons. C'est les mêmes. Donc, et tout ça, c'est Israël. C'est ça qu'il faut. Et vous vous rappelez donc, à propos du Kriyat Shema, pourquoi c'était important que les Midrash nous disent qu'au moment de la mort de Jacob, les enfants se rassemblent et lui disent « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Ben, c'est pas évident. Non, je l'ai rappelé. Oui, c'est ça. C'était bien fait. C'est ça. C'est tout à fait le problème. Et nous sommes en train de vivre ça. Hier soir, à la conférence, je n'ai pas encore rappelé, mais je vous le rappelle, vous l'avez étudié. C'est que Rashi va d'emblée à la troisième explication, vous vous rappelez. Un jour, à la fin des temps, c'est les Goïm qui diront Shema Israël. Pourquoi il n'a pas cité les deux premières? Vous comprenez ma question? Rashi, sur le verset de Shema Israël, il ne cite pas le Midrash, que c'est les enfants de Jacob qui parlent à leur père, que c'est Moïse qui parle à Israël. Il cite le troisième Midrash, qu'à la fin des temps, les Goïm diront à Israël Shema Israël. Pourquoi il ne cite pas les deux premiers? Parce que parce que c'est déjà réalisé. Est-ce que vous voyez que c'est vraiment déjà réalisé? C'est ça que je voudrais. Quels sont les deux premiers problèmes? Les deux premiers problèmes, c'est ça. C'est la réponse. Mais il faut bien le mettre en évidence. Les deux premiers problèmes, c'est les tribus entre elles et les chilonimes et les datimes entre eux. C'est-à-dire, qui c'est les chilonimes? Ceux qui ont la foi. Et les datim, ceux qui ont la loi, vous vous rappelez de cela, le paradoxe qu'il y a là. C'est-à-dire, ceux qui sont fidèles à Moïse avant la Torah, ceux à qui Moïse a dit, « Ve'ahavta et Hashem Elokecha » et après il a ajouté, « Ve'ahavta devarim asher anochi metzavecha » vous vous rappelez. Et puis, ça veut dire que, bien que dans la réalité, la solution n'est pas encore réalisée, dans le principe, il n'y a plus de problème. L'histoire a fait que nous savons que tout juif est juif, qui viennent de Réouven ou de Zebulon, et que tout juif est juif, qu'il soit chiloni ou dati. Ces deux problèmes, dans le principe, sont résolus. On est sur le même bateau, comme on dit en Tunisie. Okay? Mais qu'on le veuille ou pas. Et ça, le monde entier se charge de nous le démontrer. Okay? Et même s'il n'y avait pas la pression extérieure, malgré tout, un juif, c'est un juif et il le sait. Vous comprenez le même s'il ne peut pas se définir. Alors que le troisième, c'est ça qui fait question. Et le troisième... ne croyez pas qu'on y est déjà. Hier, à la conférence, il a fait allusion comme ça que depuis très longtemps, énormément de courants culturels disent qu'ils reconnaissent le Dieu d'Israël. Mais c'est pas clair. En même temps, ils ne reconnaissent pas Israël. C'est pas vraiment Shema Israël. Vous comprenez?
Il n'y a pas aussi un jeu
Je ne sais pas si tu te rends compte, à quel point presque à chaque cours, je vous rappelle ça. Il faut bien. Il faut absolument. Je ne sais pas, non, ça c'est autre chose, mais je crois qu'effectivement, beaucoup de juifs ont tendance à faire du Dieu unique, dont parle la tradition d'Israël, un Dieu tribal. Ce serait plus une monolatrie qu'un monothéisme. Ça c'est juste, il faut toujours mettre l'accent là-dessus. Qu'il s'agit du Dieu unique et donc de lire la Torah à ce niveau-là. Bien, tous ces problèmes, effectivement, sont en cours d'histoire. Alors c'est là qu'on arrive. Veïtem lecha, et il te donnera, et birkat Abraham, la bénédiction d'Abraham, lecha uzaracha itach, à toi et à ta postérité avec toi, les richtecha et teres mekurecha, afin que tu puisses hériter du pays de tes voyages, à Shernatan Elohim le Abraham, que Dieu a donné à Abraham. Et ça voudrait dire que Padan Aram fait aussi partie de la promesse. C'est pas pour rien que ça se passe comme ça.
Le pays de tes voyages.
Non. Res mekurecha, j'ai traduit le pays de tes voyages. Le pays où tu es étranger, où tu seras étranger. Il s'agit des Rêtes Israël, okay, dans le Pshat. Seulement, au niveau du Midrash, on peut aller jusque-là en disant que c'est partout où Jacob a été, c'est donc les Rêtes Israël. Je ne sais pas s'il a traversé le Litani. C'est au-delà. Paddan Aram, c'est la région du sud de la Syrie, y compris le Liban. C'est, il y a Aram Naharaim et Aram Tsova, toute cette région qui finalement a été la région de la plus grande vie juive culturelle au temps de du Beit Sheni, le Beit Sheni. La région des grandes yeshivot de Babel, tout le judaïsme de Babel, avec une partie de la Perse d'ailleurs aussi. Bien. Vaishlach Yitzhak et Yaakov, et Yitzhak envoya Jacob, Vaïelir Padena Aram, il alla en direction de Padan Aram, El Laban ben Betuel Arami, chez Laban, fils de Betuel araméen, Achi Rivka, frère de Rivka, et Yaakov et Esav, mère de Jacob et de Esav. On a étudié une fois ce verset à propos d'Ishmaël. Alors là, je voudrais continuer le texte parce qu'il y a une parenthèse très importante qui se passe là. Vayar Esav. Et Esaü vit. Ça veut dire s'est rendu compte. Diberach Yitzhak et Yaakov, que Isaac avait béni Jacob, Vayishlach Oto Padan Aram, et l'avait envoyé à Padan Aram. La kahatlo misha misha, pour se prendre pour lui une femme de là-bas, et barkhoto, lorsqu'il le bénit, au moment où il l'a béni, vaitsav ala, et qu'il lui avait ordonné les mots en disant, lotika isha mi benot knaan, tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Knaan, vaishma Yaakov et la vive, et que Jacob avait écouté son père, veilimo et sa mère, vaieler padena aram, et qu'il était allé à Padan Aram. Vayar Esav, alors Esav s'est rendu compte qu'il a haute benot Knaan veine Yitzhak Aviv, que les femmes de Knaan étaient mauvaises aux yeux de son père Isaac. Vayelech Esav et Ishmael, alors Esav est allé chez Ishmael. Vaikar, et il prit et Mahlat bat Ishmael, Mahlat fille d'Ishmael, ben Abraham, fils d'Abraham, Achot Nevayot, sœur de Nevayot, Al Nashav. En plus que les femmes qu'il avait déjà, les Cananéennes, il les a pas répudiées, l'Oleïcha, au lui pour femme. Et voyez ce qui se passe ici. C'est un épisode extrêmement important. C'est quand Esaü se rend compte qu'il a été disqualifié à cause des filles de Canaan, et il s'en rend compte, puisque c'est Jacob qui est le porteur de la suite de Tonadot, que Isaac lui a transmis la bénédiction d'Abraham, et il ne s'agit pas de l'autre bénédiction. Okay? Alors à ce moment-là, il y a un demi-repentir. Vous avez remarqué ce qui s'est passé dans le texte? Il s'est rendu compte que les femmes étaient mauvaises aux yeux du père et de la mère, mais il ne s'est repenti que vis-à-vis du père. Vous avez remarqué? Est-ce que c'est clair? Vaishma Yaakov et la vive et l'imo, vaïler padenara. Vaya esaf tiraot benot knaan ben yitzhak abiv, erif kaimo. C'est une première référence, mais il y en a encore une autre, si vous voulez. Si vous voulez, je vais vous donner encore une autre. Vous la donnez tout de suite. On va un peu exploiter ça. Voilà, l'autre se trouve un peu plus haut. Vous allez prendre le verset 34 du chapitre 26, la fin du chapitre 8. C'est ça, c'est la même chose. Il reste attaché à la société cananéenne, pro-palestinienne, quand même, et pas à la société juive, c'est évident. À partir du verset 34 du chapitre 26. Il y a encore une troisième référence, mais je vous la... D'accord. Vous y êtes? Bon. Alors, c'est voilà. Vaïe Esa ben Alvarim Shana. Esaü était âgé de 40 ans. Vaïe Karisha, il prit pour femme, et Yehudit, regardez le malin, hein? Une cananéenne qui s'appelle Yehudit. Et Yehudit, bat Be'eri, Yehudit, fille de Be'eri, Achiti, le Chitéen, bat Basmat, bat Elon Achiti, et Basman, fille de Elon le Chiti, bat Yéna, Morat Rouach, le Yitzhak, le Rivka. Et elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et pour Rivka. Et là, il ne se repent que vis-à-vis de Yitzhak. Vous y êtes ? Allez. Alors ici, on me donne en préfiguration deux choses très importantes. D'une part, le demi-repentir de Ésaü, il va pas répudier le paganisme des Cananéens, mais y ajouter le monothéisme d'Ismaël. Oui. Et d'autre part, l'alliance avec Ismaël contre Israël. Ça va ensemble. Mais je suis en train de chercher encore un autre verset que vous allez prendre comme référence dans le même thème, une demi-minute. Ce verset m'échappe toujours. Prenez le verset 46 du chapitre 27. Verset 46, vous l'ajoutez comme référence, verset 46 du chapitre 27. Va tomer Rivka et Yitzhak, et Rivka dit à Yitzhak, Katsti vechayai, littéralement, vous voyez, Ketsechai dans la même expression, Katsti vechayai, j'ai ma faim dans ma vie, Ketsechai, Mipene benotret, à cause des filles de Chet. Imlokeach Yaakov. Et si Jacob prend Isha mi benot chet, une fille, une femme parmi les filles de chet, Kaele mi benot haaretz, comme celle-là des filles de la terre, Lamali chayim, que ferais-je de la vie, oui. Donc c'est clair que les benot chet sont un sujet d'inquiétude, plus pour Rivka que pour Isaac d'ailleurs, mais pour les deux. Or, lorsque Ésaü se repent, c'est un demi-repentir, vis-à-vis de son père seulement, pas vis-à-vis de sa mère. Et comment se concrétise ce repentir ? Dans une alliance avec Ishmaël. Okay ? Alors vous voyez, tout ce thème-là est assez vertigineux, parce que c'est effectivement l'histoire de Rome par rapport à Israël, dans toutes ses étapes. C'est-à-dire d'abord, la Rome impériale, ensuite, et c'est la Rome impériale qui a détruit Israël. Ensuite, vous avez le demi-repentir de la Rome impériale qui devient la Rome chrétienne. Elle ne répudie pas le paganisme, mais elle va y surajouter un monothéisme de type islamique. Vous suivez ? Alliance avec Ismaël et alliance avec Ismaël contre Israël. Alors, avant d'aborder, je vous donner la suite, je vais vous donner la référence du Midrash qui explique que le repentir était vis-à-vis du père et non vis-à-vis de la mère. Et là, il y a un thème extrêmement profond, très important. Je vous donne d'abord le verset, c'est sur un verset des Proverbes de Salomon. C'est... Alors ces versets des Proverbes
disent...
Alors Shema béni, écoute mon fils, Moussa Ravicha, la morale de ton père, et ne te détache pas de la Torah de ta mère. Bon, quand même lire de la Torah ta mère, mais enfin. Alors le Midrash dit, à propos de ton père et ta mère, En Avicha, Ela, Avinu Shevashamayim, ton père, c'est Dieu, et Imecha, ta mère, c'est Knesset Israël. Knesset Israël. Et l'Assemblée d'Israël. Bon. Là, au point de vue de l'identification dans l'histoire, c'est terriblement clair. Finalement, le Romain, devenu chrétien, s'identifie comme Israël, comment ? En reconnaissant le Père. Et vous avez toutes ces formules, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de... Vous savez qui ? Dieu d'Israël. Donc, c'est le Dieu d'Israël qui va le reconnaître. Notre Père qui est aux cieux. Mais la mère, la Knesset d'Israël, ça... C'est la synagogue aux yeux bandés. C'est-à-dire, c'est l'antisémitisme chrétien. Et vous voyez que tous les éléments se retrouvent dans l'histoire. Encore une fois, il y a eu la, comment dire, paganisation de la civilisation issue de Esav. C'est un des descendants de Esav qui a fondé Rome d'après le Midrash. Il s'agit de Magdiel, un des fils d'Esav. Magdiel. Et alors, vous vous rappelez quel est le mythe fondateur de Rome ? C'est les deux jumeaux. Rappelez, Romulus et Rémus. Mais dont un tue l'autre pour fonder la ville. Rappelez de ça. Et qui c'est la mère ? C'est la louve. Okay. Une panthère. Et qu'est-ce que dit Ésaü dans sa haine contre Jacob ? Vous rappelez du verset ? Ikrevu, Yemel. Lorsque les jours de deuil de Isaac arriveront, je tuerai mon frère Jacob. Et ils fondront. Là, il y a un point très important. Tant qu'Isaac est vivant, Ésaü ne peut rien contre Jacob. Nous avons retrouvé ça au début de l'année. Vous vous rappelez quand on a parlé de comment Jacob aide Isaac et Isaac aide Jacob. Vous vous rappelez de ça? Et alors. Ensuite, il y a indéniablement un repentir de Rome. Mais c'est un demi-repentir. Et c'est là qu'apparaît la Rome chrétienne, avec toute son histoire propre, qui se réclame du nom d'Israël. Mais comment elle s'identifie au niveau théologique ? Pas du tout par le monothéisme d'Israël, mais par un monothéisme plaqué sur le paganisme. Ce qui est représenté dans le récit des femmes cananéennes. C'est-à-dire, la Trinité, ça continue, mais on affirme que c'est l'unité. Un demi-repentir, mais il est surtout ressourcé avec Ismaël, plus qu'avec Israël. Vous demandez vraiment à un chrétien comment sont son rapport avec l'islam, et son rapport avec le judaïsme, vous voyez que c'est ça qui éclate. Il y a une alliance entre la chrétienté et l'islam contre Israël. Et je pense qu'effectivement, tout rentrerait dans l'ordre si cet antisémitisme chrétien disparaissait, c'est-à-dire si le repentir s'achevait aussi vis-à-vis de la mère. Mais à ce moment-là, Ésaü disparaît et devient Israël. il disparaît comme tel et devient Israël. Et c'est ça le blocage. Alors je pense que nous vivons une époque où c'est de plus en plus évident. À l'échelle individuelle, beaucoup de membres d'Esaü entrent en Israël. Comment se fait le choix de Dieu des individus? Ça dépend du mystère de la destinée de chaque âme individuelle. Mais il est évident que le monde chrétien est travaillé par un appel d'Israël très profond, et à l'échelle individuelle, beaucoup de descendants de cette civilisation de Esaü deviennent Israël. Et qu'arrivera-t-il de l'Église, des Églises? Bon, eh bien, c'est, d'après le texte, c'est, à un certain moment, on ne sait pas comment ça se passera, c'est disparition pure et simple. C'est fini, un cycle qui finit. Ça s'est indiqué à ce fameux verset, Rebecca, mère de Jacob, et Esaü disparaît. Vous avez fait mon question ?
Mishmael,
Esav. Le péché originel. C'est-à-dire qu'ils reprennent la contestation des descendants de Laban contre Jacob à Rami. Top. Alors vous voyez donc ce qui se passe ici, et surtout cette coalition d'Esaü et d'Ishmaël pour réclamer ce qui a été dit dans le texte, qui était le contenu de la bénédiction d'Abraham, l'héritage de la terre. Vous remarquerez cela. Je vais simplement vous ajouter une petite indication. Ne me demandez pas trop de précision. Chaque fois qu'il y a une rencontre entre les représentants de la chrétienté et les représentants de l'islam, c'est-à-dire entre Esaü et Ishmaël, qui met en danger Israël, les kabbalistes de Jérusalem ont l'habitude de se réunir dans un endroit très précis, je peux vous dire où est l'endroit, mais pas plus, pour essayer de lutter contre. Parce que la coalition Esaü Ishmaël contre Jacob est très très dangereuse, très très vulnérable. Or, nous vivons une époque où il y a cette convergence des intérêts entre Esaü et Ishmaël contre Israël. Je sais pas, vous voyez, pour descendre à Rehov Strauss, pour arriver au Kikar Shabbat, l'entrée de Maché-Arim, c'est juste après le grand binyan de la Histadrut sur la gauche. Okay. Juste la maison après, c'est là qu'ils se réunissent. Ils savent pourquoi. Okay. Chaque fois qu'on entend qu'il y a un dignitaire chrétien qui rencontre un dignitaire musulman, alors ça dit des psaumes. Bien. La dernière fois, c'est quand il y a eu le risque d'un contrat d'armement entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Arabie Saoudite. Alors, il y a eu une nuit d'études là-bas. Et le contrat n'a pas été signé. Bien. Quelle heure est-il? Alors, voilà donc les références concernant la bénédiction d'Abraham. Est-ce que vous avez des précisions à me demander sur ce premier volet? Je ne sais pas. C'est-à-dire, tous les textes montrent que l'Empire de Rome, qui est le quatrième empire, arrivera à son terme. Comment ça va se passer? Personne ne le sait. Historiquement? La disparition, le signe le plus évident, c'est l'arrêt de la papauté. Une fois le pape ôté, reste rien. Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est une reconnaissance de la part de l'Église, que c'est bien Israël qui est Israël, et que l'Église devienne une diaspora d'Israël. Ce qui impliquerait énormément de problèmes pour les juifs de la diaspora. Qu'est-ce qu'ils deviendraient? On aurait une backbeat confortable. Il est indéniable qu'un problème concret est très difficile. Et dont je ne pense pas que les chrétiens puissent se sortir tout seuls. Il faudrait que les juifs et les chrétiens ensemble étudient ce problème. Parce qu'il y a un personnage de trop. C'est ou bien Israël ou bien le Christ dans la théologie chrétienne. C'est évident. Il y en a un qui gêne l'autre. Mais il y a une asymétrie, c'est que le Christ est un objet de croyance, alors qu'Israël est une existence. Alors pendant 2000 ans, la stratégie de la théologie chrétienne a été d'établir une théologie négative du judaïsme. C'est-à-dire qu'il était nécessaire qu'Israël survive, mais comme témoin négatif de ce qui arrive à celui qui ne reconnaît pas le vrai Messie. Et donc, cette théologie négative était à l'aise tant que c'était le temps de l'exil, tant que c'était le temps des persécutions. À partir du moment où l'histoire d'Israël éclate avec l'État d'Israël, c'est un trauma pour la conscience chrétienne qui est très profond. Où situer Israël dans la théologie de l'Église? Il n'y a pas de place. Vous comprenez? C'est un drame épouvantable. Et alors, d'autre part, la conscience chrétienne, en toute bonne foi, après le nazisme, ne peut plus avoir dans sa théologie la théologie du déicide. Elle a vu où ça mène. Par conséquent, il y a une impasse absolue. C'est-à-dire, l'Église est dans l'attente de la formulation d'une théologie positive du judaïsme. Quoi faire du judaïsme? Mais dans l'état des choses, à part quelques individus chez les chrétiens, qui voient que c'est ce problème qu'il faut résoudre, au niveau des hiérarchies, c'est bloqué de façon totale. Totale. Parce qu'il y a une sorte de prise de conscience que poser le problème risque d'être catastrophique pour l'avenir de l'Église. Seulement poser le problème. Et d'où cette tentation, disons, d'une alliance avec les Palestiniens contre Israël, de chercher le moyen de supprimer le fait Israël sans que ce soit l'Église elle-même qui le fasse. Voilà le drame actuel. Il y a en particulier en France un journal qui s'appelle Témoignage chrétien, qui vient d'ailleurs d'être condamné pour diffamation antisémite, et qui va dans ce sens de façon totale, globale, viscérale. Qu'est-ce que vous voulez dire? À la Shoah, il y a eu un traumatisme. Nécessité de reviser l'antisémitisme chrétien, parce qu'ils ont vu où ça mène. Et beaucoup d'entre eux sont allés jusqu'à prendre la responsabilité de cela. Vous avez, dans beaucoup de kibboutzim, énormément de chrétiens, je ne sais pas, des églises très officielles toujours, mais parfois allemands, qui viennent travailler dans les kibboutzim pour expier la Shoah. Je ne sais pas si vous connaissez ces groupes. Des Danois aussi. Bon, des Danois, c'est par amitié, c'est beaucoup plus que ça. Et du monde entier, d'ailleurs, ça vient. Mais c'est un traumatisme extrêmement grave. Et alors, c'est très inquiétant pour Israël, tant que la conscience chrétienne n'arrive pas à trouver une épuration. Parce que, inévitablement, ça mène à cette alliance avec Ishmaël, d'essayer d'espérer qu'Israël disparaisse sans que ce soit l'Église qui l'ait fait. Alors on renforce les Palestiniens. Et j'étais très frappé par cette intensité avec laquelle le témoignage chrétien en particulier parle de cela. Au nom de la conscience, au nom de la conscience chrétienne. C'est-à-dire, ils habillent le drame palestinien, si j'ose dire, de la passion de Jésus. C'est eux, les juifs de Palestine de ce temps-là. C'est eux qui vivent la passion du Christ. Ça va jusque-là. Et beaucoup de juifs, d'ailleurs, sont tentés de penser comme ça. C'est quand même pour d'autres raisons. Et à l'échelle individuelle, ce problème qui nous est donné là dans ce thème, qui est un thème très important, et vraiment vous touchez du doigt la densité de la prophétie biblique, ça veut dire qu'elle nous raconte notre histoire. Et à l'échelle individuelle, eh bien c'est très simple. Ésaü, devenant sadique, devient Jacob Israël. Ils étaient jumeaux à l'origine. Ça veut dire c'est le fait qu'un membre de l'Église devienne juif. Ésaü disparaît. Et il s'accomplit dans l'achèvement de son repentir. Est-ce que c'est clair? Il arrive aussi que des païens purs et simples deviennent juifs. Ils court-circuitent le christianisme, ils n'en ont pas besoin. Bon. Mais je parle de cette espèce d'événement historique du demi-repentir de Rome qui a été bloqué par un mythe qui lui a caché Israël. Et si le repentir se remet en marche, à l'échelle individuelle, il n'y a pas de problème. Mais à l'échelle collective, même pour le judaïsme, pour la communauté juive, pour Israël, c'est un problème aussi insoluble. C'est-à-dire, est-ce que les Juifs ont la capacité de prendre en charge tous ces goïms qui étaient chrétiens? Là où ils sont. Il ne s'agit pas d'en faire des Israéliens magiquement. C'est-à-dire de prendre en charge la dimension morale de l'avenir de la civilisation occidentale. C'est aussi un grand point d'interrogation. Par exemple, imaginons que, je ne sais pas, d'un coup, 100 000 chrétiens en France aillent au consistoire pour devenir juifs. Où on va les mettre? À l'échelle individuelle, bon, il n'y a pas de problème. C'est faisable, surtout en Israël, il n'y a pas de problème. Mais à l'échelle du monde de la chrétienté, il n'y a pas d'issue. Donc il faut trouver le moyen que la chrétienté reste la chrétienté sans étant la chrétienté. Je crois que théoriquement, il s'agirait d'être diaspora d'Israël en se débarrassant du paganisme qu'il y a dans leur théologie. Ça, on peut les aider à le faire. C'est-à-dire de conserver l'expérience de leur foi à leur manière, qu'Israël est sauveur du monde, sans l'habiller de paganisme. D'évacuer le mythe de la figure du Christ. Parce que le contenu de la foi, c'est le même, seulement en maquette païenne. C'est le Inyana Eloki de Judas Lévi qu'ils adorent en l'air. Ça commence à s'écurer.